Radio Cultura. .eus.
Bonsoir à tous, bienvenue à la présentation du concert intitulé La Croisée des Cultures, qui sera donné deux fois ce week-end, donc samedi soir à 20h30 à la salle Apollo au Boucau et dimanche après-midi à 17h à Mauléon. Un concert original qui met à l'honneur des formations, essentiellement constituées des enseignants du conservatoire Maurice Ravel, l'ensemble Taldegoshoa, que représentent ici Philippe Deschcoin et David Ariola, et l'ensemble Accorde, représenté donc par Marina Berech, qui sera donc le violon solo ce week-end. À ces musiciens du conservatoire se joignent des artistes invités, qui sont issus du monde des musiques traditionnelles et qui vont donc apporter leur univers, leur couleur spécifique et faire donc de ce concert d'un moment de partage à la croisée des univers musicaux. Alors je remercie mes collègues d'être à mes côtés ce soir pour cette présentation. Alors on va commencer dans l'ordre du concert, donc avec l'ensemble Taldegoshoa. Philippe, est-ce que tu pourrais juste nous rappeler quel musicien a constitué cet ensemble et quel répertoire vous abordez habituellement et dans quel esprit?
Oui, donc Taldegoshoa existe depuis quelques années.
En fait, c'est une dynamique qu'on a voulu créer par rapport à la présence des musiques traditionnelles ici au conservatoire, dans les ateliers que l'on enseigne et dans aussi un cursus de DEM. Donc évidemment, cet ensemble s'est créé autour de personnalités de musiciens et de professeurs qui ont vraiment un intérêt particulier pour ces musiques-là. Alors soit de par leur parcours, leur formation, David qui est à côté de moi, qui joue du saxophone, bien que ça peut paraître un petit peu étrange comme instrument traditionnel, mais il est vraiment dans la tradition de la charanga à Garassi et donc a joué depuis tout petit toute cette musique-là dans son village. Moi, j'ai fait de même de l'autre côté, à Urugne, avec un accordéon un peu plus traditionnel. Et ensuite, concernant Agnès Rospidegaray, qui, elle, est au Chistou, bon, ça va de soi que forcément, elle a depuis toujours joué un répertoire traditionnel, et dans sa jeunesse, elle a beaucoup joué, notamment avec un des groupes les plus connus, qui s'appelle Oldara. Ensuite, Joël Mera est un musicien-compositeur qui s'est toujours intéressé aux musiques traditionnelles, qu'on a beaucoup joué aussi. Et là, on le retrouve avec plusieurs guitares, et notamment il va venir avec la mandoline aussi. Et Frédéric Chambon, aussi un intérêt particulier pour les musiques traditionnelles, et avant tout pour la musique traditionnelle brésilienne, avec la batucada et d'autres instruments qu'il adore jouer avec nous. Donc en fait, c'est un ensemble qui essaye d'apporter un petit peu de fraîcheur à cette musique qu'on dit, comme dit, traditionnelle. Vous savez, il y a toujours cette grande question, qu'est-ce que la musique traditionnelle? Qu'est-ce qu'on en fait? Comment il faut la jouer? Bon, ben nous, très franchement, on ne se pose pas toutes ces questions. On a envie surtout de la jouer comme elle nous plaît. Avec des rythmes, avec des harmonies qui nous plaisent, et on est plutôt dans cette envie-là, et surtout une grande envie de la partager et de la rendre vivante. Donc pour ce concert, on invite Duan Frances Tisner. Alors pour quelle raison? La première, c'est qu'on le connaissait, donc c'est déjà important. Duan Frances est un chanteur qui chante depuis de très longues, très nombreuses années, avec des formations très diverses. Et il avait une qualité qu'on lui trouvait, c'est déjà une très très belle voix, et aussi vraiment une écoute et une possibilité d'adaptation très rapide, hein, puisqu'on voit bien dans ses projets qu'il mène qu'il y a beaucoup de recherches. Hein, il est constamment dans la quête de nouvelles expériences. Que ce soit au niveau du son, que ce soit au niveau des musiciens avec qui il joue. Et donc on s'est dit, ben voilà, peut-être quelqu'un qui, avec nous aussi, on peut trouver peut-être facilement une façon de collaborer et de présenter un travail original. Donc c'est ce qu'on a fait. On a essayé de croiser un petit peu des musiques que nous on connaît, mais en même temps qui sont plutôt gasconnes. Et voilà, on a essayé de parler de tout ça, de trouver un répertoire où en fait voilà, on peut communiquer assez facilement, parce que bon, vous voyez bien la chose, hein, c'est-à-dire on n'est pas loin, on n'habite pas loin, mais en même temps on ne se connaît pas beaucoup entre nous, hein, donc les Basques, les Gascons, les Occitans, voilà, tout ça c'est... Voilà, pourtant il suffit de faire quelques kilomètres et voilà, on pourrait se rencontrer, mais bon, les cultures sont là, elles sont parfois figées, parfois, voilà, donc il faut un petit peu forcer la main et se dire, tiens, voilà, on va essayer de collaborer et d'inviter quelqu'un et de passer un bon moment tous ensemble. Voilà, en tout cas, c'est l'idée qu'on a eue avec Lyon Française. Alors justement, il est malheureusement à Toulouse en train de finir un enregistrement, donc mais rassurez-vous, il vient demain pour le concert, donc il peut pas être avec nous ce soir. Donc voilà, on a prévu avec Julie de au moins d'écouter sa voix et un petit peu son univers avec une mazurka que l'on va jouer d'ailleurs, que l'on va jouer demain, qui s'appelle la Vezina.
La vezina per me acqua rimumma, o mi urdumma per me desina di buttare il gradisau. Io me molta la vezina per me acqua rimumma, o mi urdumma per me desina di buttare il gradisau. Lo gradisau che mi hemau, ma è descosa mumba vau. Ah, che mumba vau me scosa, ah, che mumba vau me mau. Ah, che mumba vau me scosa, ah, che mumba vau me mau. Io me mo, cala vezina, per me hai guari mumma. Mi urdumma per me vezina, di buta più arti sciau. Io me mo, cala vezina, per me hai guari mumma. Mi urdumma per me vezina. L'artichaut che me lo tencaut, lo grade sau che mi hemau. Ma heite scosa mumba bau. Ah, che mumba bau me scosa, ah, che mumba bau hemau.
Donc le répertoire que vous allez interpréter demain est essentiellement constitué de danse, de chansons. Alors pour... faire se croiser les cultures basques et gasconnes, vous avez aussi choisi de jouer sur le mélange des langues, je crois. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer en deux mots et puis peut-être nous donner à entendre un échantillon de ce que vous avez préparé avec David?
En fait, on a découvert une pièce qui s'appelle Petite Annette, qui ressemble, en fait, qui est une pièce musicale dansée et chantée. Et on retrouve les mêmes pas et des fois les mêmes structures thématiques que les Mouchikouak ici. C'est-à-dire effectuer avec les mêmes pas et avec les mêmes structures et même des mélodies, au final, des mélodies qui sont complètement, on va dire, presque jumelles ou fausses jumelles. Badestu aussi, c'est flagrant, mais Petite Annette aussi par rapport à certaines tours du Mouchikoua. Et Badestu, il ressemble un petit peu à un passage des quadrilles, en fait, qu'on a, qui se danse en couple. Et vraiment, les mélodies, elles se ressemblent complètement. Ouais. Donc en fait c'est plus les sauts basques et les danses gasconnes, c'est presque plus du Grand Sud finalement, quelque part. Donc en fait ça tombe bien justement cet échange, ça permet de voir des similitudes très surprenantes. Voilà.
Alors, pour revenir à la chanson où on a osé faire une traduction, donc on a choisi... ce thème que vous connaissez, enfin je vais vous le chanter, le début, je ne dis pas le nom en basque exprès pour voir si vous connaissez. Bon, en fait c'est un chant très très connu, et donc Dion Frances va évidemment le chanter aussi en gascon. Je ne sais pas s'il faut que je... parce que là je pense que je vais dire vraiment des bêtises. Je crois que je vous le fais en basque et puis on se dit qu'en concert vous allez écouter la version en gascon, je pense que c'est beaucoup plus sage. Ouais, bonjour, on fait le premier couplet peut-être.
Penses-tu qui couche esbelirida qui te lola galdusira no Alla cambia tutta su redenzione itsema se ne reita Mai verita enni assi de la enni assi de la
On va peut-être passer à la présentation de la deuxième partie, consacrée à la découverte d'une version très originale des Quatre Saisons, qui sont donc le concerto pour violon le plus célèbre de l'immense production de Vivaldi, Lao Chachouac. Pour l'occasion, donc, quatre musiciens invités vont rejoindre l'ensemble à cordes de l'ORBCB. Peut-être juste quelques mots assez rapides hein, sur Vivaldi et les Quatre Saisons pour l'introduire. Vivaldi, bon, c'est ce grand musicien italien de l'époque baroque, contemporain de Jean-Sébastien Bach, qui est aussi violoniste, qui va passer la majeure partie de sa carrière à Venise, dans sa ville natale, qui va, malgré ses dons pour la musique, entamer des études pour devenir prêtre. Et au bout de 10 ans d'études, il devient prêtre en 1703, mais il ne célébrera que très rarement la messe, et puis finalement, il se consacrera exclusivement à la musique. C'est la raison pour laquelle on le surnomme parfois dans les ouvrages le prêtre roux, hein, parce qu'il était prêtre et qu'il avait une chevelure flamboyante. Donc il se consacre à la musique, il passe la majeure partie de sa carrière à Venise, où il est maître de violon et compositeur. dans un orphelinat, la Pietà, à Venise, qui va devenir l'une des institutions les plus admirées, les plus célèbres en son temps. C'est une institution religieuse qui est destinée à accueillir des jeunes filles pauvres, orphelines, abandonnées. Elles sont formées à la musique et Vivaldi va faire de ces musiciennes qu'il dirige et pour lesquelles il compose des orchestres les plus réputés en Europe. Donc il compose énormément pour cet orchestre. Et l'un de ses genres de prédilection, c'est donc le concerto, puisqu'il a écrit près de 500 concertos pour toutes sortes d'instruments. Et son instrument favori reste le violon, puisqu'il était un excellent violoniste et qu'il va dessiner plus de 200 concertos, à son instrument. Donc les quatre saisons sont les plus célèbres de ses concertos. Ils ont une particularité, ce sont des concertos à programme, donc inspirés par une idée extra-musicale. Et dans le cas des quatre saisons, ce sont des concertos inspirés par des poèmes en italien, peut-être de Vivaldi, qui évoque donc le déroulement des saisons, qui comporte de nombreux éléments descriptifs, que ce soit les chants d'oiseaux, des bruits de la nature, je sais pas, le froid de l'hiver, la pluie, les tempêtes, etc. En tout cas, des éléments qui vont inspirer Vivaldi, qui lui permettent de déployer tout son talent descriptif, mais qui lui permettent aussi de déployer une écriture très virtuose et innovante, à la fois sur le plan instrumental, et on va en parler, notamment au niveau de recherche de sonorité, mais aussi sur le plan harmonique ou encore rythmique. Alors, tout d'abord, comment t'es venue cette idée de vouloir apporter une nouvelle couleur à cette partition? Et voilà, comment est née cette idée?
Alors, bonjour à tous. Cette idée m'est venue lors d'un repas, avec les musiciennes du Quatuor Aranois à l'époque. Voilà, je sais pas, je m'étais dit, tiens, ça serait bien qu'on fasse un disque, qu'on fasse un programme un petit peu à part. Voilà, il y a tellement d'œuvres qui sont enregistrées, réenregistrées. Il y a tellement de références que c'est difficile d'y mettre sa patte. Et puis, je sais pas, j'ai pensé aux quatre saisons. Et bon, c'est vrai que c'est une œuvre universellement connue, qui est aussi enregistrée, réenregistrée. Mais peut-être dont les gens sont un petit peu lassés ou qu'ils ont une vision un petit peu rébarbative de la musique. C'est aussi la musique d'accueil, je crois, du Pôle emploi. Voilà, c'est quelque chose qui est un peu sorti de son contexte et donc qui prend une allure un peu voilà, désuète et puis quelque chose qui nous embête un peu, quoi. Donc, je me suis dit, tiens, ça serait bien de la revisiter. Et bien sûr, étant une basque, que j'aime ma culture, j'aime ma langue, j'ai voulu y ajouter voilà, des instruments, des couleurs de chez nous. Et voilà, et j'ai pensé que c'était une œuvre qui s'y prêtait très bien, de par justement son côté représentatif, la nature. Je trouve qu'au Pays Basque aussi, on est très attaché à notre nature, on est très attaché à nos traditions. Et je trouve que dans cette œuvre, il y avait beaucoup de choses qui ressemblaient à, ben voilà, aux choses qu'on aime chez nous, quoi. Donc ça a été un petit peu une envie de remettre en valeur cette œuvre, de la remettre en valeur dans son sens initial, et aussi de faire découvrir à un public classique qui vient au concert classique nos instruments de chez nous, puisque voilà, on joue pas forcément que ici, on joue aussi un peu partout en France. Donc c'était l'occasion aussi de faire découvrir notre langue, nos sonorités, nos rythmes. Voilà, en gros, la genèse du projet.
Alors donc pour la couleur basque, il a les instruments traditionnels basques. On peut peut-être présenter en quelques mots les musiciens et puis les instruments dont ils jouent.
Alors, donc on a quatre musiciens basques. Le premier à qui j'ai pensé qui était incontournable pour moi, c'est Michel Etchekopar, qui est juste, je pense, un des plus grands musiciens basques. Voilà, multi-instrumentiste, poète, c'est quelqu'un d'extraordinaire, humainement, musicalement. Voilà. Donc pour moi, c'était incontournable de travailler avec lui. Donc il joue dans ce projet, il joue de la chirula, il joue du tchoun-tchoun, il joue du tambour, il joue aussi des cloches. Alors bon, c'est pas vraiment un instrument qu'on utilise habituellement, Mais voilà, c'était pour apporter aussi une sonorité dans un mouvement, notamment. Voilà, j'avais cette image des brebis dans la montagne, et pour moi, c'était incontournable. Voilà, et puis il utilise aussi énormément sa voix, il chante, et il siffle aussi. En fait, je pense que c'est un oiseau réincarné. Il est capable de parler en langage d'oiseau, c'est juste étonnant. Et voilà, et puis diverses petites flûtes aussi qui sont pas forcément basques, mais qui donnent une couleur particulière. Voilà. Ensuite, donc on a deux Chalaparthali. Voilà, je voulais absolument mettre la Chalaparta aussi. Donc on a Pascal Endo et Pascal Inchabagno. Et Opandero, qui était aussi incontournable, Patrick Larald. Voilà, alors il faut savoir que ce sont quatre musiciens qui sont plutôt des musiciens, ça a peut-être une connotation un peu négative, mais pas du tout. C'est des musiciens de rue. Donc c'est vraiment des musiciens qui jouent n'importe où, pas dans des salles de concert. Donc ils étaient un petit peu impressionnés au départ, hein, quand on a commencé le projet, et les premiers concerts, c'était quelque chose. Mais enfin voilà, on a échangé, on a partagé nos énergies et je crois que le résultat est, enfin, en tout cas j'en suis très contente et les retours qu'on en a aussi sont assez bons, donc voilà, je pense que c'était une bonne chose de le faire.
Alors on va écouter un extrait pour que vous ayez une idée un petit peu de cette nouvelle couleur apportée aux quatre saisons, mais juste avant, une dernière chose après, je ne t'embête plus, mais en miroir au sonnet de Vivaldi, tu as aussi une idée pour renforcer cette couleur basque?
À la base, c'était pas prévu. En fait, on a ajouté des berchu au début de chaque saison. Alors, ce sont des textes de Ligetch, qui est un poète souletin. En fait, voilà, on s'est dit, ça serait bien d'introduire les saisons avec du chant. Ça manquait un petit peu, parce que le chant au Pays Basque, c'est comme la parole, c'est comme respirer. On chante tout le temps, dans les repas, dans les fêtes, dans les familles. Voilà, donc il fallait rajouter du chant, c'était obligatoire. Et puis, voilà, Michel nous a sorti ses poèmes. Et c'est juste étonnant parce que les mots sont quasiment les mêmes que les mots originaux. Alors, c'est pas exactement les mêmes phrases, les mêmes vers, mais vraiment, le sens est quasiment identique. Donc, on a trouvé que c'était juste l'idée du siècle. Merci, Michel. Et donc, voilà, il chante un berchu qui présente la saison au début de chaque concerto. Parce qu'en fait, ce sont quatre concertos. Quatre saisons, quatre concertos. Voilà, donc quatre poèmes de Ligetch.
Voilà, donc on écoute du coup le début du premier mouvement du printemps.
Thank you.
pour un exemple du tout début du printemps. Alors, c'est, la partition de Vivaldi est abordée avec beaucoup de respect. Il n'y a pas une note qui est changée. Donc, l'original est vraiment parfaitement respecté. Ce qui n'empêche pas des partis pris esthétiques, hein, puisqu'il y a aussi l'utilisation de modes de jeu un peu spécifiques qui ne sont pas forcément écrits dans la partition, mais qui sont au service finalement de l'œuvre. Est-ce que tu peux nous en parler un peu ?
Oui, alors par exemple, ben là, dans ce qu'on vient d'écouter, donc les oiseaux, hein, le but n'est pas de faire forcément, ce que j'ai dit en début de répétition aux musiciens, de faire forcément du beau violon ou du bel instrument, c'est de représenter au mieux la nature, sans faire du moche, hein, bien sûr. Mais donc, on a l'habitude d'entendre ces oiseaux avec voilà, beaucoup de sons, beaucoup de vibrato ou des choses comme ça. Là, le but, c'est vraiment de s'imaginer qu'on est, je ne sais pas, dans la forêt et que voilà, y a des petits oiseaux de partout. On est tous des oiseaux différents. Et donc, on adopte un mode de jeu un petit peu plus près du chevalet, qui s'appelle Sul Ponticello, et donc qui donne une couleur un tout petit peu plus acide, sifflante, et qui, pour moi, se rapproche un peu mieux du chant des oiseaux que le violon en lui-même, quoi, le son propre du violon. Il y a aussi, par exemple, dans le deuxième mouvement de l'été, Vivaldi parle des attaques de moustiques et de thym. Évidemment, ben peut-être je peux vous montrer un petit peu...
Oui. Je vais parler sans micro, ça va aller. Bon, voilà, donc pour les oiseaux, au lieu de faire quelque chose de trop joli, on va essayer d'avoir quelque chose de un peu moins instrumental et un peu plus animal. Voilà. Par rapport au deuxième mouvement de l'été, par exemple, on a l'accompagnement des cordes qui fait... C'est ce qui est marqué. Mais pour faire penser aux moustiques et au thym, on va aussi jouer plus près du chevalet qui va faire... On va s'imaginer un petit peu plus des moustiques qui nous embêtent la nuit, là. Bzzz. Voilà, donc il y a des choses comme ça. Il y a aussi dans l'automne, il y a les chiens, il y a la biche qui se fait poursuivre par les chiens dans la chasse, dans le troisième mouvement. Voilà, on va essayer d'avoir quelque chose... Un petit peu, on va essayer d'imaginer les chiens qui aboient. On va essayer d'imager un petit peu plus dans le chien du deuxième mouvement du printemps aussi. Voilà, j'ai demandé à l'altiste de pas faire du trop bel alto et de faire un chien un peu plus campagnard, quoi, hein, un chien de la montagne. Donc pas de vibrato, quelque chose d'un peu plus âpre qui va nous rappeler un peu plus animal, quoi. Voilà, il y a d'autres exemples, mais je vais peut-être pas tout donner. Mais voilà, donc on a essayé d'adapter un petit peu les modes de jeu pour essayer de... En fait, moi, je vois ces quatre saisons comme presque un dessin animé ou comme une grande BD ou un grand film. Donc ça raconte une histoire et il faut vraiment qu'on se fasse des images. Je vois un film défiler. Donc, ces sonorités vont nous aider aussi à créer ces images et à nous plonger dans l'histoire.
Alors les instruments traditionnels que vous utilisez en plus permettent ça aussi. C'est pas juste la couleur basque, mais c'est de pouvoir renforcer par moment aussi l'aspect un peu descriptif, évocateur de la partition.
Oui.
Dans l'exemple que tu veux, qu'on pourrait te faire entendre. Voilà, Tchalaparta.
Peut-être oui, dans l'été, le troisième mouvement, dans la tempête, le tonnerre, voilà. J'avais imaginé les Tchalaparta qui allaient... doubler un petit peu. Alors nous on a des rythmes en double croche, vous connaissez ce mouvement, hein, voilà. Seulement les Tchalaparta, il faut savoir une chose, c'est qu'ils font pas tac 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 tac, ils font tac 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 tac. Donc voilà, donc c'est fait exprès, on n'est pas calé totalement, mais il y a un côté comme ça justement tempête tourbillonnante, et là le but de la Tchalaparta c'était de renforcer ces coups de tonnerre et aussi voilà les bourrasques de pluie. Donc c'est pas juste mettre de l'instrument basque pour mettre de l'instrument basque, mais c'est aussi pour encore plus renforcer ce côté imagé.
Thank you.
Alors il y a un aspect encore dont on n'a pas parlé pour cette couleur basque, c'est au niveau du rythme. Il y a un mouvement en particulier qui est d'ailleurs très réussi.
Donc il y a le troisième mouvement du printemps, qui est à la base pour moi, enfin même au début, hein, quand je l'entendais, j'entendais un fandango en fait. Donc c'est vraiment, on peut danser un fandango dessus. Et donc ben, il fallait un pandelo hein, pour appuyer ce rythme. Et voilà, donc celui-ci est pour moi juste le fandango idéal. Il y a aussi un autre mouvement dans lequel on a rajouté un rythme basque, le rythme du sortico, mais c'est assez discret. Mais, donc c'est dans le deuxième mouvement de l'automne, ce mouvement qui s'étire comme ça avec les changements d'harmonie, qui est d'ailleurs le même que dans le concerto pour flûte à bec. Donc on a rajouté ce rythme de sortico aussi, c'est juste un petit clin d'œil, hein. C'est pas des choses qui sont voilà, jetées comme ça, mais voilà, je pense que c'est les deux mouvements qui sont les plus représentatifs des rythmes basques. Ouais.
Dernier exemple sur ces saisons basques. Eh bien, merci. Donc, on termine en musique, peut-être, puisque vous jouez régulièrement ensemble, en duo. Donc,
Voilà.
Radio Cultura. Punto EUS.